son nom en latin.
Leucoium vernum.
Et son nom vernaculaire.
Nivéole de printemps.
Annick Guimain, vous avez sorti le grand livre de botanique. On est ici au bord d'une rivière, c'est plutôt des nivéoles qu'on trouve.
Oui, alors tout à fait, là c'est plutôt ce qu'on voit, dans une zone plutôt humide, qui se prête bien à ce genre de plantes qui sont les premières à apparaître au printemps. On les appelle aussi les clochettes de la chandeleur. Entre les nivéoles et les perce-neige, elles portent ce surnom, donc c'est vrai que c'est les premières qu'on voit. Enfin, les deuxièmes, je dirais les perce-neige, justement, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais poussent plus ou moins 2 semaines avant les nivéoles.
Là, ça fait déjà un petit moment qu'elles sont là, ces nivéoles. C'est courant de les voir finalement si tôt dans l'année?
Disons, c'est toujours lié aux conditions météo. Et cette année, c'est vrai qu'on a eu une fin de mois de janvier, début février assez clémente, si je me souviens bien. Donc, elles sont apparues assez tôt cette année. Mais c'est toujours au début du printemps, en fait.
Vous disiez que ça s'appelle aussi clochette de la chandeleur, donc c'est vraiment lié finalement un peu à cette fête du début d'année qui est au mois de février, début février.
Exactement, voilà, oui. Alors c'est plus typiquement les perce-neige qu'on appelle violette de la chandeleur, mais les nivéoles, elles ont aussi de jolis petits surnoms, on peut les appeler des claudinettes ou des grelots blancs.
Vous avez justement votre bouquin, c'est quoi la différence principale finalement, mis à part qu'elle vient un petit peu plus vite la perce-neige, entre la perce-neige puis la nivéole?
Alors je dirais que c'est surtout une histoire de morphologie de la fleur qui est différente. Au niveau de la clochette, si on veut, pour un petit peu imaginer cela, au niveau de ce qu'on appelle les tépales de la fleur, la corolle est un peu plus fermée au niveau de la nivéole par rapport à la perce-neige qui est plus découpée, je dirais. Sinon le reste, elles ont tout à fait un feuillage qui est similaire. Et puis elles ont surtout cette particularité de bulbe en fait, qui fait office de racine. Et puis ça, c'est vraiment typique de ces fleurs printanières. Et puis leur manière aussi de pousser, justement, elles se mettent dans des sous-bois, dans des lieux un peu humides, et elles profitent de cette partie de l'année du printemps où il n'y a pas de feuilles aux arbres pour emmagasiner la lumière qui leur permet justement de sortir les premières, en fait. Elles ont tout un fonctionnement qui est toujours assez magique au niveau de la nature, comme ça se passe, je trouve.
Ici, c'est exactement ça, finalement. On est dans un sous-bois plutôt clair, au bord de la rivière. C'est l'endroit idéal.
Alors complètement, ça fait tout à fait un joli tapis, comme on peut imaginer... Enfin, l'endroit rêvé pour ce genre de fleurs, ça se prête tout à fait à ça, oui. Oui, zone humide, un petit peu limite marécageuse, en sous-bois comme ça.
On est ici au bord de la rivière, mais on en trouve aussi dans des endroits qui sont un petit peu moins humides que ça quand même.
Bon, je pense qu'il faut que ça soit un terrain, on le voit ici, un terrain relativement frais, un terrain fertile en fait, c'est ça. S'il était plus caillouteux, plus filtrant, plus exposé au soleil, c'est clair qu'elle aurait la peine de venir. Mais ce n'est pas nécessaire qu'il y ait une rivière juste à côté. Donc, oui. Hein, c'est une question de structure, de qualité du sol.
Un sol un peu gras, on peut le dire comme ça?
Voilà, tout à fait.
On peut peut-être un petit peu se balader, voir si tout à coup on trouve quand même une perce-neige. On a vu qu'il y avait déjà des petites plantes bleues, vous avez dit, c'est quoi?
Oui, alors il y a des muscaries qui sont aussi des plantes printanières qu'on peut retrouver ici dans ce sous-bois. Et puis ces feuilles un peu plus rondes, où c'est que j'ai vu ça? Ah, là! Par contre, il y a du gibier. On voit bien qu'il y a un engrais par là. Puis, mais je ne saurais pas dire ce que c'est celle-là. C'est encore trop tôt, elle est trop jeune cette pousse pour vraiment définir quelle plante c'est.
Bon, là on parle d'engrais naturels, on voit que le champ qui est juste à côté, par contre, il n'y en a plus une seule. C'est une plante qui ne supporterait pas trop justement des engrais employés dans l'agriculture, ou c'est pas spécialement fragile?
Je pense que ça peut être fragile au niveau des engrais, après tout est question de dosage aussi. Hein. Mais c'est clair que par exemple, si le champ était labouré, là ça serait fatal quelque part. Hein. C'est clair qu'on retourne complètement la terre, on soulève les bulbes, ils sèchent et puis après la plante meurt.
Cette plante, est-ce qu'elle a des vertus, mis à part le fait qu'elle est très jolie?
Mais au niveau du bulbe, elle a des vertus mais qui sont un petit peu ambivalentes, c'est-à-dire que le bulbe contient en fait une partie d'alcaloïdes, comme on appelle ça, et puis qui pourrait, lors d'ingestion, quand même provoquer des désagréments comme des vomissements, des diarrhées. Enfin, c'est pas tout à fait top de manger des bulbes de nivéole. Mais au-delà de ces effets néfastes, c'est employé en pharmaceutique. Ces mêmes alcaloïdes participent à un médicament contre la maladie d'Alzheimer à petite dose.